Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vouloir arracher une petite plante que vous voyez dans votre jardin, si vous en avez, ou même à un endroit. Parfois, vous voyez la petite plante et vous la méprisez, n'est-ce pas? On dit, ah, bah, celle-là, tac, avec une seule main, je vais la déraciner. Alors, vous vous penchez, vous tirez, et puis là, eh ben, dites donc, elle résiste, la petite plante, hein? C'est qu'elle a de la force. Et cette plante, si elle résiste, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les racines sont profondément enfouies dans le sol. On les a pas vues. La petite taille nous a fait croire que les racines sont peu nombreuses, peu profondes et qu'on peut l'arracher. Mais il y a aussi une autre raison qui nous permet d'avoir du mal ou qui nous empêche d'arracher une plante. C'est quoi cette autre raison? C'est la nature de la terre. Si la terre était sablonneuse, même avec des racines assez grandes, on pourrait arracher la plante. Mais si la terre est argileuse, lourde, calcaire, eh bien les racines prennent beaucoup plus de force et de résistance, et là on est dans l'impuissance vraiment d'arracher la plante. Donc, et des racines profondes et une terre de qualité adéquate rendent la plante indéracinable. C'est cette vérité-là que Dieu nous a donné dans sa parole. Vous vous rappelez que nous avons parlé depuis quelque temps de ces racines que nous avons besoin de développer dans notre vie pour grandir vers le ciel. Des racines pour toucher le ciel. Mais c'est très important d'avoir des racines. Mais le plus important, c'est de savoir où on s'enracine. Parce que si vous poussez des racines et que ce soit dans la terre sablonneuse, un coup de vent et vous êtes arraché. Donc, très important de savoir dans quel sol, quelle est la terre dans laquelle nous allons faire pousser nos racines. Nous avons vu que des racines nous permettent d'être dans l'intimité avec Dieu. Ils nous permettent de nous élever vers le ciel. Quand ils sont profondes, elles nous donnent de la solidité, de la résistance, de la force pour grandir et être plus près dans la communion avec Dieu. Nous avons vu que cette démarche de grandir doit être intentionnelle. Il ne suffit pas d'attendre que ça arrive, ça n'arrive pas de manière automatique. Il faut vraiment vouloir grandir et donc prendre soin de ses racines, les nourrir, les développer et leur offrir la terre adéquate. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps de réfléchir à cette terre. Alors, quelle est la terre, la bonne, dans laquelle nous avons besoin de nous enraciner?
La parole.
Il y a la parole écrite et la parole vivante qui est le Christ. La parole écrite nous renvoie vers la parole vivante, le Seigneur Jésus. Eh bien, la parole de Dieu, justement, écrite, nous dit que nous avons besoin de nous enraciner en Christ. Nous le sommes déjà, effectivement, mais nous avons besoin de le rester et nous avons besoin de continuer de nous enraciner dans le Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, il ne suffit pas d'avoir ou de développer des racines, il faut aussi s'enraciner dans la bonne terre qui va nous apporter ce dont nous avons véritablement besoin. Il y a des terres pauvres qui ne vous donneront rien. Vous aurez beau avoir de belles et grandes racines, ces racines-là ne trouveront rien. Par contre, si c'est dans une terre riche, là, vos racines trouveront de quoi se nourrir et de quoi faire monter la nourriture vers l'arbre pour que l'arbre porte du fruit. Enracine-toi dans la seule terre qui soit capable de t'apporter ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, celui dont tu as besoin, celui qui est la terre bonne, c'est Jésus-Christ. Plonge tes racines dans le Christ. Bâtis ta vie sur lui. Et alors tu seras un arbre verdoyant. Un arbre avec une belle floraison et avec des fruits en abondance. Plante tes racines dans le Christ. C'est cette vérité que l'apôtre Paul, dirigé par l'Esprit de Dieu, va communiquer à une église qui courait le danger d'être arrachée loin du Christ. Parce que on est allé vers cette église, qui est l'église de Colosse, à laquelle Paul va écrire cette lettre, et on a voulu leur faire croire qu'il y avait d'autres terres aussi bonnes que celles de Jésus-Christ. D'autres terres dans lesquelles nous pouvions nous enraciner. Et dans cette église de Colosse, on a présenté d'autres voies. On a dit aux chrétiens, c'est bien d'aimer Jésus, c'est bien de vous attacher à Jésus, mais ne restez pas cloisonnés à Jésus seul. Ouvrez-vous à d'autres horizons. Il y a d'autres possibilités. Il y a même des anges qui pourraient jouer le même rôle que Jésus-Christ. Et on leur a présenté même une religion qui est la religion de « fais ceci, fais pas cela ». Et on a voulu leur faire croire que cette religion est une bonne terre pour leurs racines. En réalité, ce qu'on leur a présenté, c'est plutôt une terre qui étouffe, une terre qui rend les racines, qui provoque la mort dans les racines, des racines et les détruit. Et chaque fois qu'il y a un danger pour nous, parce qu'il y a des choses qui voudraient nous faire croire que Jésus n'est qu'un parmi d'autres. Là, nous avons besoin de nous rappeler, tes racines sont dans le Christ. Il est la seule terre capable de nourrir ta foi, nourrir ta vie. Et c'est ce que Paul va rappeler à cette église qui était vraiment en danger, parce que s'arracher du Christ, c'est tout perdre. S'éloigner de Jésus, c'est vraiment rencontrer la mort. Et voilà ce que Paul va leur dire à ces chrétiens dans le chapitre 2 de Colossiens, versets 6 et 7. Je vous le lis d'abord dans la version Louis II et après dans la version Parole de vie. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Et voilà les deux versets dans la traduction Parole de vie. Vous avez reçu le Christ comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Plongez vos racines en lui parce que vous êtes enracinés en lui. Alors continuez de creuser que votre racine rencontre le cœur de Dieu. Vous avez remarqué que nos versets commencent par deux mots. Ainsi donc. Chaque fois que vous voyez ces mots dans les Écritures, arrêtez-vous et dites-vous que là, vous avez des indications qui vont vous être données, qui sont la conclusion de ce qui a été dit auparavant. C'est la conclusion à laquelle arrive Paul. Paul va conclure quelque chose d'important et cette conclusion lui vient du chapitre 1 et ce qu'il a écrit juste avant dans le chapitre 2. Et il va donc donner ce conseil important qui est la conséquence de la présentation qu'il a fait de Jésus-Christ au chapitre 1 et au chapitre 2. Paul nous a présenté dans le chapitre 1 Jésus comme l'image du Dieu invisible. Et nous a présenté Jésus comme non pas un parmi d'autres, mais l'unique par sa vie, l'unique par sa mort, l'unique par son sacrifice, l'unique par sa relation à chacun de nous, l'unique par son amour. Jésus n'est absolument pas comparable aux autres. Les anciens musulmans souvent entendent parler de Jésus et Mahomet et ça les énerve parce qu'ils disent mais il n'y a même pas à mettre les noms côte à côte parce qu'on n'a pas à les comparer. Comment comparer Dieu à l'homme? Comment comparer l'incroyable amour à la haine la plus atroce? Il n'y a même pas à comparer. Et c'est ce que Paul voulait faire comprendre aux Colossiens en présentant d'abord Jésus-Christ. Il est le Créateur. Il est l'image du Dieu invisible. Il est au-dessus de tout. Il est vraiment l'unique. Il est l'espoir des hommes. Il est l'espérance de la gloire de chacun de nous. Il est le trésor dans lequel sont cachées la sagesse et la connaissance de Dieu. Il est le chemin, l'unique, qui nous conduit à notre Père céleste. Si nous pensons arriver à Dieu en prenant n'importe quel chemin, nous n'arriverons nulle part. Si nous voulons atteindre le cœur de Dieu, bénéficier de la communion avec le Seigneur, alors nous avons besoin de placer notre confiance et de reconnaître en Jésus l'unique, le seul. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus. Jésus. Alors, Paul dit à ses croyants, on cherche à vous détourner de Jésus. On vous présente des religions, des traditions, des philosophies. Mais moi, je vous dis, restez enracinés en Jésus. Amen. Ainsi donc, ça veut dire, voilà à quoi j'arrive comme conclusion après vous avoir présenté Jésus dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Quelle est la seule conclusion à laquelle j'arrive? Restez attachés à Jésus. Restez enracinés dans le Seigneur. Vous l'avez reçu comme le Seigneur, continuez et persévérez dans votre attachement à lui, dans votre vie qui l'honore. Toute la lettre de Paul a été écrite, toute la lettre aux Colossiens, a été écrite pour montrer que Jésus l'emporte sur tous et sur tout. Et Paul voulait donner à ses chrétiens toutes les raisons pour lesquelles ils avaient besoin de garder leurs racines plongées dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de voir ces raisons que Paul nous présente dans ces versets, quelques instants pour réfléchir à ce que veut dire précisément être enraciné. Bon, vous comprenez que c'est une image. C'est une image qui nous parle d'une réalité spirituelle dont nous faisons l'expérience et à laquelle, voilà, il a été fait allusion tout à l'heure. Cette image parle de quoi ? Elle parle de notre union à Jésus-Christ. Vous savez, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Il n'y a aucun livre sacré, aucune religion qui vous propose cette possibilité d'être un avec celui que vous adorez, avec Jésus-Christ. En Jésus, l'homme et Dieu se sont réconciliés. Vous voyez, Jésus-Christ, nous l'appelons l'homme-Dieu, parce qu'il est celui en qui Dieu et l'homme s'embrassent. Et quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous devenons ceux qui embrassons Dieu. Nous sommes vraiment unis à lui, comme dans la personne de Jésus, Dieu s'est uni l'homme. Il est l'image vivante de cette union-là et il nous appelle à vivre cette union. Et la parole de Dieu, en termes humains, nous avons du mal à trouver les mots qu'il faut. Alors on emploie tellement d'images pour exprimer cette réalité de notre union avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devenons une seule réalité avec lui. Alors la Bible nous dit, eh bien nous sommes attachés à Jésus-Christ et nous devenons avec lui une même plante. Une même plante. Nous étions une plante sauvage. Nos racines cherchaient de la nourriture ailleurs. Et Dieu est venu et il nous a déracinés de cette terre pauvre qui ne nous donnait que la mort. Et Dieu nous a plantés afin que nos racines trouvent la vie en Jésus-Christ et nous devenons un arbre vivant pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes une même plante avec lui parce que Jésus-Christ est l'arbre de vie et nous, nous sommes unis à lui. Nous sommes une branche de cet arbre-là. Il y a la métaphore, l'image que Paul utilise à propos de l'olivier. Vous vous rappelez, nous étions un olivier sauvage et Dieu nous a pris pour nous greffer sur l'olivier saint. Il y a l'image du cep et des sarments. C'est une image que le Seigneur Jésus a donnée. Tout ça pour traduire cette même vérité de notre union spirituelle avec Jésus-Christ. Cette union est réalisée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit vient et il me connecte à Jésus-Christ. Mais il ne me connecte pas moi seul, il connecte chacun de nous. Et ainsi, nous faisons une forêt d'arbres, tous plantés dans le cœur de Jésus-Christ et tous s'élevant à la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons une forêt d'arbres qui portent du fruit pour la vie éternelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est la même chose, enracinez-vous en moi. Vous savez que le Seigneur Jésus, lorsque nous avons cru, il est venu pour faire sa demeure en nous. Mais nous ne sommes pas la demeure, comment dire, la maison secondaire, la résidence secondaire. Jésus ne vient pas de temps en temps pour nous rendre visite et passer ses vacances dans notre vie. Et il a fait de notre vie sa résidence permanente. Oui, il a quitté le ciel pour habiter un corps humain, pour en faire sa résidence permanente. Jésus n'a pas abandonné son corps humain pour repartir chez lui en disant « J'ai passé un moment avec vous et maintenant je rejoins ma patrie ». Non, il est monté au ciel et il est monté dans un corps glorieux pour nous indiquer par là que l'homme est devenu l'habitation de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Et alors, il nous invite à faire de même à son égard. Je demeure en vous et demeurez en moi. Cela veut dire, ne faites pas de ma vie une résidence secondaire, mais faites le choix d'habiter en moi définitivement, de manière permanente. Comme moi, je me suis uni les êtres humains pour l'éternité, c'est votre intérêt de vous unir à Jésus-Christ pour l'éternité et de plonger vos racines dans sa vie. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. Voilà ce que veut dire en quelques mots. Enracinez-vous dans le Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, enracinez-vous en lui, étant enraciné en lui. S'enraciner dans le Christ, cela veut dire aussi de vivre à son égard de la même manière que nous l'avons reçu au début de notre vie. Et alors, comment est-ce que nous avons reçu le Seigneur au début de notre vie chrétienne? Nous l'avons reçu comme le Seigneur. La parole dit exactement ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus comme le Seigneur. Est-ce que vous voyez la différence? Là, on a traduit, vous avez reçu le Seigneur Jésus. Mais ça veut dire exactement, au début de votre vie, vous avez reçu Jésus comme le Seigneur. Il est où le Seigneur Jésus aujourd'hui? Il est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus est le souverain du monde. Qu'il est le Seigneur de tous. Et les chrétiens à qui Paul écrit, quand il leur annonçait l'évangile, leur réponse était « Je reconnais que Jésus est le Seigneur ». Mais attention, lorsqu'ils faisaient cette confession, ils pouvaient mourir. On pouvait les arrêter parce que, à cette époque-là, il fallait proclamer que César était le maître du monde. Et il fallait dire « César est Seigneur ». Les chrétiens disaient non, le seul Seigneur qui dirige vraiment l'univers, qui a autorité sur le monde et qui a autorité sur ma vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et la conversion, c'est la reconnaissance, la proclamation que Jésus est Seigneur. Autrement dit, Ce n'est pas un homme qui est mort et qui est enterré il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté inconnu. Non, c'est le vivant, c'est le ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il accomplit son œuvre dans le cœur de chacun de nous. Alors bien sûr, aujourd'hui, certains ne reconnaissent pas Jésus comme le Seigneur. Un jour, ils fléchiront les genoux devant lui. Un jour, ce sera d'une évidence incroyable, parce que Jésus reviendra comme le Seigneur pour juger les morts et les vivants. Mais aujourd'hui, les chrétiens reconnaissent en Jésus le Seigneur. C'est ça qui fait de nous que nous sommes chrétiens. Parce que nous reconnaissons en Jésus le Seigneur par la foi. Et si nous reconnaissons en Jésus le Seigneur, nous reconnaissons donc en lui celui qui est mort et qui est ressuscité. Et il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu le Seigneur.
Amen. Amen.
Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, ou comme vous avez reçu Jésus le Christ comme le Seigneur, restez enracinés en lui. L'enracinement, c'est la profession, la proclamation de Jésus comme le Seigneur.
Amen.
C'est facile à dire, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Amen.
Vous allez voir une vidéo. Alors, je n'ai pas eu le temps de traduire, c'est en anglais, mais c'est sous-titré. Mais c'est une vidéo qui va nous dire ce que ça veut dire reconnaître en Jésus le Seigneur. Bon, c'est parlant, n'est-ce pas? Vous avez reçu le Christ Jésus comme le Seigneur. Et pour être enraciné en lui et continuer d'être enraciné en lui, c'est continuer de vivre en tant que Jésus est le Seigneur. Et cela veut dire lui donner la décision qui lui revient à lui seul comme Seigneur. Même quand je ne comprends pas, Jésus doit être assis là où la décision est prise, c'est-à-dire dans mon cœur. Et quand il fait sa demeure permanente dans mon cœur, là, et que je le laisse agir comme ça, je peux dire que voilà, je m'enracine dans le Christ. Que veut dire être enraciné dans le Christ? C'est ce que nous venons de voir. Pourquoi? Pourquoi est-ce important de s'enraciner dans le Christ et non pas dans un autre? Je vais aller très très vite. La première chose, c'est que en Jésus, il y a tout. En lui, il y a tout ce qu'il nous faut pour notre vie spirituelle. Vous pouvez chercher partout ailleurs, vous ne trouverez jamais ce qui satisfait le cœur, ce qui répond aux besoins le plus profond. Jésus est l'unique parce qu'il est celui en qui habite Dieu corporellement, celui qui est la vie, celui qui est l'espérance, celui qui est la réconciliation, celui qui est le pardon, l'amour sacrificiel, la compassion, la miséricorde.
Amen.
Vous savez, il y a tellement de choses que nous admirons dans les hommes et que nous voudrions tellement manifester, nous les trouvons en Jésus-Christ. L'exemple de l'amour qui se sacrifie. Vous avez vu comment la France a été éblouie par l'acte de ce gendarme Beltrame.
Alléluia.
Pourquoi est-ce qu'on a admiré tant cet homme? C'est parce qu'il a fait quelque chose que nous aimerions tellement faire, n'est-ce pas? Donner sa vie pour les autres. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui a donné sa vie pour les autres. Il me faudrait des heures pour vous décrire ce que le Seigneur Jésus représente. Paul a écrit son épître aux Colossiens pour leur montrer que Jésus est la réconciliation. Il est le pardon. Il est celui qui a triomphé des forces du mal. Il est celui qui est la vie et la résurrection. Il est celui avec qui nous sommes ressuscités. Mais il y a une autre raison qui doit nous pousser à rester enracinés dans le Christ, à faire de lui notre terrain. C'est que par lui, nous comprenons véritablement l'amour de Dieu. Quand nos racines plongent dans la vie de Christ, cela nous aide à comprendre l'amour multidimensionnel de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est quadridimensionnel. Là, je fais référence à un passage dans Éphésiens que Paul va citer pour les Éphésiens, mais ça reprend les mêmes expressions que Colossiens. Je vous le lis rapidement. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est une prière que Paul fait à l'égard des croyants. Enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous les chrétiens combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Lorsque nos racines sont attachées à Jésus-Christ, nous allons comprendre véritablement ce que veut dire que Dieu nous aime. Nous allons découvrir ces dimensions cachées. Pour certains, vous devez vous rappeler la série, la quatrième dimension. Non ? Il n'y a que moi qui ai vu cette série en noir et blanc, toute bizarre au niveau de la qualité, mais séduisante parce qu'elle me faisait pénétrer dans la quatrième dimension. Et la quatrième dimension, c'était toujours quelque chose d'intrigant, de surprenant. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est pas trois dimensions, c'est quatre. Parce que quand vos racines sont dans le Christ, vous allez découvrir tous les aspects incroyables, surprenants, mystérieux et qui deviennent limpides parce que l'amour de Dieu est vaste. Et nous avons besoin de le découvrir en mettant nos racines dans la vie de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je passe rapidement pour vous donner une suggestion, un conseil pour rester enraciné dans le Christ. Comment faire pour que ma vie et mes racines plongent jour après jour dans le Christ? Eh bien, vous avez remarqué que le passage se termine par « abonder en actions de grâce ». Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus comme le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné, fondé et affermi, et abondé en actions de grâce. La reconnaissance à l'égard de Dieu est la force la plus incroyable pour donner ce qu'il faut à nos racines afin qu'elles se développent et qu'elles atteignent le cœur de Dieu. Vous savez que lorsque vous êtes reconnaissant, vous ne l'êtes qu'à l'égard de Dieu. On peut être reconnaissant à l'égard des humains, bien sûr. Mais pour tout ce que Dieu fait pour nous, il n'y a qu'à son égard qu'on peut être reconnaissant. Et Paul nous dit, regardez, regardez ce que Dieu a fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Il vous a enraciné, il vous a fondé, il vous a affermi. Les trois mots qui sont employés, ce sont des mots qui indiquent que celui qui œuvre n'est pas moi, mais Dieu. Étant enraciné, qui m'a enraciné? Est-ce moi ou Dieu?
Dieu.
Dieu. Étant affermi, qui a affermi? C'est Dieu. Et donc Paul nous dit, regardez, admirez l'œuvre de la grâce de Dieu. Admirez le travail de Dieu dans votre vie. Et il vous a enraciné en lui. Parce que le jour où je me suis tourné vers le Seigneur et que j'ai reconnu en lui le Seigneur de vie, Dieu m'a uni à Jésus-Christ. Il a tout fait pour moi. Et quelle est ma réponse à ce travail de Dieu dans ma vie? C'est ma reconnaissance. C'est pour ça que Paul finit par dire « et abonder en grâce ». Si on ne fait pas attention, on a l'impression que ça vient comme un cheveu sur la soupe. Moi, vous êtes enraciné, vous êtes fondé. Tiens, et si vous remerciez le Seigneur? Non, il y a une logique très claire. Parce que Dieu a œuvré de telle manière dans votre vie, votre réponse à l'égard de Dieu, c'est la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait à votre égard. La reconnaissance dans la vie chrétienne n'est pas une option parmi d'autres. Elle est l'option nécessaire et obligatoire parce que la reconnaissance agit comme un aimant pour faire ressortir tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Au Maroc, on jouait très souvent dans la terre quand on était petit. Et alors, on était émerveillés parce qu'on avait des aimants. Et quand la terre était poussiéreuse, nos aimants, vous savez, tout d'un coup, ils se trouvaient entourés de plein de tout petits morceaux. C'était le fer qui était dans la terre. Alors, ça nous éblouissait. Quand on jouait à la main, on pouvait jamais trouver ces morceaux. Si on les cherchait, on ne les trouvait pas. Mais en utilisant l'aimant, tous ces morceaux-là remontaient. L'action de grâce, c'est l'aimant qui fait ressortir tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Quand vous commencez à dire merci à Dieu, il y a un premier bienfait qui apparaît. Mais ce premier bienfait vous fait penser à un deuxième, et à un troisième, et à un quatrième. Et puis à un moment donné, votre aimant est rempli de petits morceaux de fer. Votre cœur et vos racines sont remplis de ces bienfaits, et votre vie va se développer encore plus. Le meilleur moyen de rester attaché et enraciné dans le Seigneur Jésus, c'est de trouver les raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants à l'égard de Dieu. Alors, je vous mets un défi pour le mois qui vient. Pour le mois qui vient, prenez le temps, à un moment donné, chaque jour dans votre vie, pour trouver une raison pour laquelle vous pouvez dire merci à Dieu. Là, je suis gentil avec vous. Hein. Une raison. J'aurais pu être méchant en disant, mais cherchez 10 raisons. Non, une raison. Alors, si je prends le temps, pendant un mois, à un moment donné, je m'arrête, 30 secondes. Seigneur, pourquoi je peux te remercier? C'est l'occasion pour moi de revenir à l'essentiel en me disant, je vais faire en sorte que mes racines restent dans la vie de mon Seigneur, que mes racines cherchent le cœur de mon Dieu. Et alors, ce premier remerciement me fera penser à un autre, et à un autre, et à un autre. Et si nous faisons ça au bout d'un mois, ça peut devenir une habitude. En tout cas, ce serait le but. Une vie de reconnaissance, c'est une vie enracinée dans le cœur de Dieu.